La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par Impact Centre. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le milieu agricole et rural plus durable. Dans cet épisode, nous allons revenir sur la participation citoyenne dans les projets menés par les communes ou les autres collectivités territoriales. Dans les 11 premiers épisodes de La main à la pâte, nous sommes partis à la rencontre de différents acteurs et notamment de citoyens fédérés en collectif ou en association qui mettent en place des initiatives agricoles et alimentaires. Mais les citoyens sont aussi, de plus en plus, appelés à s'engager dans la mise en place des politiques publiques, au sein des projets alimentaires territoriaux par exemple, ou au sein de la Convention citoyenne pour le climat au niveau national. Mais quelle place leur est réellement laissée ? Entre consultation, codécision, concertation, la parole des citoyens et citoyennes est plus ou moins prise en compte et avec plus ou moins d'attention. Dans cette émission, vous entendrez la présentation de deux initiatives dans lesquelles les citoyens et citoyennes ont été impliqués. Pour commencer, Mathilde Gorza présentera comment la voix des citoyens a été prise en compte au sein du Conseil national de l'alimentation, notamment sur le sujet des déchets et de la précarité alimentaire. Vous en saurez également plus sur le Conseil national de l'alimentation. Vous entendrez ensuite Éric Gauthier de l'association Omaki dans le Vaucluse, qui présentera l'initiative de caisse alimentaire commune menée avec des personnes en situation de précarité alimentaire qui se base sur le principe de la sécurité sociale de l'alimentation. Et pour finir, Julie Morel de l'association Démocratie Ouverte reviendra sur le contexte de la participation citoyenne dans les systèmes alimentaires locaux. Elle apportera des éléments de définition et quelques principes à retenir lorsque l'on souhaite favoriser l'implication citoyenne.
Le CNA, donc c'est une instance qui est consultative, indépendante, mais on est rattaché au ministère de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement et de l'Économie. Et on est constitué de différents membres qui sont répartis en 8 collèges. Je vous inviterai à regarder après si vous voulez. 63 membres en 8 collèges qui sont en fait des représentants de la chaîne alimentaire, donc depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs. On a aussi des instituts de recherche qui font partie du CNA et des représentants de nos ministères de rattachement. Et donc notre activité, donc le CNA existe depuis 1985 et on peut être saisi par nos ministères de rattachement pour travailler sur un sujet majeur autour de l'alimentation actuelle, pour organiser des concertations de nos membres et écrire des recommandations qui sont rassemblées dans un avis qui leur est destiné pour orienter les politiques publiques. Voilà le rôle du CNA. Donc ça, il fait ça depuis 35 ans et depuis peu, il s'est ouvert à la participation citoyenne. Ça s'est fait, c'est inscrit dans la loi depuis 2014 par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Et donc en 2018, le CNA a décidé de monter un comité d'action pour la participation pour réfléchir à la manière de justement s'ouvrir à la participation citoyenne. Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose d'anodin quand ça fait 35 ans qu'on a eu l'habitude de travailler comme ça avec des représentants de la chaîne alimentaire. Donc du coup, on a été accompagné par la Commission nationale du débat public. Et pendant presque 2 ans, donc, voilà, ce comité d'action a réfléchi à différents scénarios qui pourraient être envisagés pour ouvrir en fait, au dialogue citoyen. Et donc, en 2020, a été adoptée une méthodologie de participation citoyenne et qui a été votée donc, par nos membres du CNA. Et donc, elle a été expérimentée une première fois sur le sujet des emballages alimentaires en 2020. Voilà, rapidement. Et comment ça se passe la participation citoyenne du coup au CNA. En fait, à partir du moment où il y a un groupe de travail qui est monté sur le sujet sur lequel on va travailler et qu'il est décidé d'articuler un groupe de concertation, un groupe de travail à de la participation citoyenne, on met en place ce qu'on appelle une cellule de la participation citoyenne. Donc en fait, c'est un groupe d'acteurs qui sont constitués à la fois d'experts de la participation citoyenne, mais aussi d'experts du sujet sur lequel on va travailler, pour réfléchir à quel serait le dispositif le plus pertinent à déployer pour tel sujet, quoi. Et donc après, il y a effectivement la phase de déploiement du dispositif, il y a des livrables citoyens qui sont produits donc, par les citoyens qui ont été mobilisés, et ces livrables-là sont présentés au groupe de travail du CNA dans le but d'orienter leurs travaux et pour enrichir l'avis final qui est rendu et voté en plénière. Voilà. Et moi, peut-être un tout petit peu plus particulièrement, je voulais vous parler du projet qui a été monté sur la précarité alimentaire. Donc c'est le deuxième sujet sur lequel le CNA a travaillé. Et c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup plus ambitieux que celui qui avait été mis en place sur les emballages alimentaires. En fait, on est vraiment accompagné en profondeur par la CNDP et on essaie vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue en essayant d'aller petit à petit parce qu'il faut faire les choses progressivement parce que c'est pas quelque chose qui était forcément habituel au CNA et donc l'objectif c'est d'être de plus en plus ambitieux. Donc sur le sujet de la précarité alimentaire, c'était une auto-saisine, donc c'est le CNA qui a décidé de se saisir de ce sujet-là, on n'a pas été saisi par les ministères, et on a organisé une démarche qui était basée sur deux outils, des débats qu'on a appelés des débats autoportés, donc en fait ça correspond à des débats locaux, on a fait un appel sur tout le territoire français à différentes structures, que ce soit des associations, des conseils de développement, des collectivités, pour qu'ils puissent organiser sur leur territoire des débats en lien avec le sujet sur la précarité alimentaire. Et donc, on a eu 67 débats qui ont été organisés au total. Donc ça, c'était entre janvier et mars 2022. Et nous, on a reçu donc tous les comptes rendus, on en a fait une synthèse. Et ça a permis d'enrichir notre deuxième outil, qui était donc un panel citoyen, qui a été organisé sur 2 fois 3 jours en mars et début avril 2022. Et cette particularité du panel, c'était vraiment la volonté d'inclure des personnes en situation de précarité au sein du panel. Donc il était constitué de 18 personnes, dont 10 personnes qui sont en situation de précarité ou qui l'ont vécu, et dans diverses situations de précarité. Donc c'est-à-dire, ça pouvait être des retraités, des étudiants, des personnes avec enfants, sans enfants, avec plusieurs profils différents. Et donc ce panel a produit un avis citoyen, donc avec un certain nombre de recommandations, il y en a eu 24 au total, et ça a été transmis donc au groupe de travail du CNA qui travaillait sur ce sujet de la lutte et de la prévention contre la précarité alimentaire. Et donc, ils les ont étudiés et au final, ça a été une belle réussite dans le sens où le groupe de travail du CNA a repris 87% des propositions citoyennes et les débats autoportés ont beaucoup enrichi la partie constat et enjeux de la vie parce que c'était très intéressant d'avoir une grande diversité de territoires, des territoires qu'on n'avait pas l'habitude de toucher, comme par exemple en Outre-mer, où finalement la question de la précarité alimentaire elle n'est pas du tout vécue de la même façon que sur la métropole. Et donc c'était important aussi de pointer ces choses-là que sûrement le groupe de travail du CNA n'aurait peut-être pas traité tout seul, quoi. Donc voilà. Et donc au final, l'avis a été rendu en octobre 2022, l'avis final. Et donc il a été transmis à nos ministères de rattachement. Et là donc on est en phase de valorisation. Et un retour a été organisé auprès des citoyens pour leur présenter justement les résultats et voir à quel point en fait l'avis a été enrichi par leurs travaux. Et donc voilà, ça a été un temps d'échange vraiment privilégié entre le groupe de travail du CNA et les citoyens. avec forcément des frustrations pour certaines recommandations qui ne sont pas reprises, mais avec vraiment la satisfaction en fait, d'avoir ce retour-là. Et ça, c'était vraiment très appréciable. On entendait vraiment les gens nous dire, mais en fait, c'est ce qu'on veut. Même si, en fait, il n'y a pas tout qui est repris, évidemment que c'est frustrant et qu'on aurait aimé, mais en fait, déjà, d'organiser ça et de nous considérer, en fait, et de nous montrer à quel point notre travail a été pris en compte, c'était important. L'avis, il parle de 4 ambitions. Donc déjà, l'avis, si vous voulez, il est téléchargeable sur notre site internet. Il y a 4 ambitions. Donc la première, c'est sur la précarité telle qu'elle est vécue et perçue. Donc avec l'idée de, en fait, il faut aussi changer de regard sur la précarité alimentaire, mieux la connaître, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui souffrent de la précarité alimentaire, mais qu'on n'arrive pas à identifier, en fait. C'est des personnes invisibles. Donc mener des études pour pouvoir mieux les connaître. Il y a eu un gros axe de travail sur comment améliorer et transformer, en fait, notre système d'aide alimentaire. On a travaillé un peu sur le chèque alimentaire, parce que c'était effectivement ce qui était actuellement en débat au sein du gouvernement. On a travaillé sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a aussi des initiatives complémentaires ou alternatives à l'aide alimentaire, comme les épiceries sociales et solidaires, les jardins partagés, les projets alimentaires territoriaux à valoriser sur le côté volet social. Voilà à peu près ce que je peux déjà donner comme exemple. Mais nous, on est en train de réfléchir à une méthodologie de suivi de nos avis, justement, parce que en fait, c'est pas évident, quoi, aussi, justement, de savoir comment est-ce que vraiment c'est appliqué. Des fois, on n'est pas forcément au courant, en plus de ça. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place progressivement. Sur ce projet-là, les débats autoportés, vraiment, l'objectif, c'était que ce soit les structures des territoires qui organisent par eux-mêmes. Donc nous, on n'a pas fait le travail d'aller recruter les citoyens, c'était les structures sur le territoire. Et pour le panel, c'était un tirage au sort pour moi. Voilà, c'était la moitié du panel, c'était des représentants de la diversité de la population française tirés au sort. Et l'autre moitié, on s'est appuyé sur le Conseil national des personnes accueillies et accompagnées pour pouvoir recruter des personnes en situation de précarité. Mais voilà, effectivement, l'enjeu de la communication, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et on le voit d'autant plus avec les personnes en situation de précarité qui, naturellement, sont éloignées des débats publics. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire le choix de s'appuyer sur une association.
Donc moi, je m'appelle Eric, je travaille dans une association qui s'appelle Omaki. On est situé dans le Vaucluse. Donc le Vaucluse, c'est un petit département du sud-est de la France. En général, les gens connaissent plutôt notre capitale, qui est Avignon, que le département. Et on est un département très touristique, mais on est surtout aussi un des départements les plus pauvres de France, avec des très très fortes inégalités sociales. On voit des grosses bagnoles traverser notre village, mais pour autant, on est largement en dessous de la moyenne en France en termes de revenus. Un territoire qui vit vraiment la décroissance de l'industrie de l'agriculture. On était un gros grenier alimentaire pendant des années. Aujourd'hui, on se nourrit avec l'Espagne et le Maroc, et donc du coup, on n'a plus besoin de produire chez nous. Et donc maintenant, nous, on fait du vin. On est un gros producteur de vin. On produit 6 litres de vin par jour et par personne, enfants compris. Voilà, pour la plantation du Vaucluse. Ça fait rêver. Hein. Bref. Et donc, nous, au Maki, on travaille sur deux grandes thématiques. Pour résumer la chose, c'est d'un côté, on travaille sur les problématiques alimentaires de notre territoire, et de l'autre, sur comment faire du lien social à la ville et à la campagne. Et donc, dans le village, on travaille sur toutes ces questions de comment développer une alimentation paysanne de qualité, donc d'accompagner paysans et paysannes, mais aussi mangeuses et mangeurs sur ces questions-là. Et donc, que ce soit les magasins de producteurs, l'accompagnement à la création d'un abattoir mobile, de comment travailler sur les questions du foncier, etc. Et puis, d'un autre côté, on travaille dans les quartiers pauvres des villes d'à côté sur ces questions de lien social et d'alimentation. Et là, on se rend compte qu'on est complètement schizophrène depuis des années, parce qu'on fait un grand écart avec cette alimentation de qualité, mais qui en fait n'est pas du tout accessible aux gens qui sont juste, pas forcément en précarité, mais simplement pauvres, etc. Et donc on est là avec notre truc, et comment sortir de cette question-là, quoi, parce que sinon, en fait, c'est horrible que de donner envie à des gens de quelque chose qu'ils ne pourront jamais avoir, quoi. Et il y a 3 ans, on découvre ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, et là, de le voir, on se dit, là, il y a quand même un vrai avenir désirable, en tout cas, au travers d'un truc qui pose une politique systémique, là où on n'a que des réponses sectorielles avec des politiques agricoles, des politiques de santé, des politiques environnementales, des politiques de développement économique des territoires, etc. Ok, ce truc est super, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est tellement macroéconomique qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Hein. Moi, c'est pas moi qui vais imposer la cotisation dans mon village sur les entreprises. On n'a aucun droit de la prélever et on n'a pas les moyens, au travers des subventions qu'on a, de verser une allocation à tout le monde, quoi. Et donc, on se dit, mais comment se saisir de cette question-là, sachant que dans le socle commun du projet de sécurité sociale de l'alimentation, il y a cette petite phrase sur le conventionnement démocratique. Et du coup, on s'est dit, tiens, peut-être qu'au travers de ça, de faire rentrer la question de la démocratie dans l'alimentation, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc, pour creuser la question, on a réuni autour de nous un comité de pilotage avec une quinzaine de personnes qui travaillent sur ces questions alimentaires depuis longtemps, que ce soit des nutritionnistes, des élus, des techniciens de PAT, des paysannes et paysans, des bénévoles de l'aide alimentaire, enfin voilà, tout un tas de gens. Et voilà, on se réunit. Alors, moi, je suis un bébé de la méthodologie de projet, que je déteste par ailleurs, mais bon, je suis quand même habitué à mon objectif principal, mes objectifs secondaires, de définir les résultats avant même d'avoir commencé le truc. Hein. Ça, on n'a toujours pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, quand on réunit le comité de pilotage, on s'est dit, on va faire 3 réunions, après, on va mettre en place notre action, et puis après, on va faire un compte-rendu, et au mois de décembre, tout est fini, quoi. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'en fait, ce comité de pilotage, il va durer pendant 1 an. Parce qu'en fait, les gens vont revenir, on se voit tous les 15 jours pendant 3-4 heures. Et en fait, de nos discussions en discussion en discussion, on a complexifié à chaque fois les choses, quoi. Et on a fait venir à nous des intervenantes et des intervenants extérieurs pour nous apporter de l'intelligence qu'on n'avait pas, sur des sujets précis, sur des choses qui nous ont permis d'ouvrir aussi notre esprit, quoi. Et au point qu'au bout de 9 mois, là, il y a la technicienne du PAT et Anne, qui est nutritionniste, qui a les cheveux blancs, elle a passé toute sa carrière à travailler là-dedans, quoi, et qui viennent me voir à la fin d'une réunion, qui me disent « Ça y est, Eric, on a compris de quoi on parlait, quoi. » Ah, alors on a un problème. Si vous avez fallu 9 mois, je pensais qu'on avait tout compris à la première réunion, moi. Donc, il vous a fallu 9 mois. Et du coup, on est reparti de cette réflexion-là, de se dire pourquoi il a fallu 9 mois à comprendre le truc, qu'est-ce qui a été les éléments déclencheurs de tout ça, etc. Donc là, on a repassé 2 mois à travailler là-dessus. Et à se dire, en fait, ce qui a été extrêmement formateur, en tout cas, c'est de faire venir des gens extérieurs dans notre réflexion. Et du coup, qu'en fait, on a appris des choses et qu'on les a appris ensemble. Et que du coup, en fait, le groupe, d'un seul coup, faisait référence à des choses et des réflexions qui étaient communes à l'ensemble du groupe et plus simplement à leur expérience individuelle. Et donc, de là, on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de créer une sorte de mini-convention citoyenne pour l'alimentation à hauteur du village et de travailler cette question de l'apprentissage sur le long terme, quoi. C'est-à-dire, puisque nous a fallu 9 mois pour le comprendre, essayons de refaire la même chose, quoi. Et donc, à partir de là, on avait fait venir à nous à un moment Jean-Michel Fourniaud, là, qui est le gars qui a accompagné le gouvernement sur la création de l'échantillonnage de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, il nous avait un peu calmé en disant vous n'avez pas les moyens économiques de faire ça, parce que entre l'achat de listes, le recrutement, le machin, le défraiement, vous n'avez pas les moyens, mais sachez que de toute façon, dans une convention citoyenne, in fine, même si on met le tirage au sort en place le plus parfait possible, les gens qui viennent à la fin sont des gens qui sont intéressés par la question. Là, typiquement, si on est tiré au sort pour... moi, ils me tirent au sort demain pour parler des autoroutes de l'information et du numérique de demain, vu que le sujet ne m'intéresse pas, même si on paye 80 balles pour venir, potentiellement, je ne vais pas dire oui, quoi. Donc, il finit par nous dire... Allez dans la rue, à des endroits très différents les uns des autres du village, et potentiellement, vous allez pouvoir avoir une sorte d'échantillonnage à peu près comme vous auriez eu en tirage au sort. Et donc, on va passer 2 mois avec le comité de pilotage à recruter nos gens dans la rue, quoi, et à leur dire, vous allez rentrer dans un processus de travail avec nous. Et donc, on a construit ce temps d'apprentissage sur 6 mois, à base d'une réunion tous les 15 jours autour de 3 grandes thématiques dans lesquelles on a voulu mettre en place la controverse. De se dire, on ne veut pas avoir un message unique, il n'y a aucune pensée qui est simplement jaune ou bleue, tout est de toutes les couleurs, quoi. Et donc, de se dire, si on avait eu 3 intervenants de suite qui nous disaient la même chose, potentiellement le groupe à la fin répéterait ce que les 3 intervenantes auraient dit, quoi. C'est à peu près ce qui se passe normalement, quoi. Mais donc là, de faire venir des gens qui ne pensaient pas la même chose, et au milieu de tout ça, on a créé une sorte de mini-outil d'EducPop à nous, où les gens du comité de pilotage se cachaient dans le public et remettaient en cause la parole des experts, en disant bah « Mais non, c'est pas vrai ce que vous dites, moi, dans mon quotidien, ça s'applique pas parce que je suis père de famille. » Et du coup, de lever la parole et de remettre en cause les expertes et chercheuses comme ça, ça a libéré la parole des autres participantes et participants. « Ah ben, puisque lui, il est capable de dire ça, moi aussi, je vais dire ça. » Donc, de fait, la parole s'est libérée et la pensée s'est complexifiée de réunion en réunion. Et ce qui a permis de créer dans le groupe une sorte de... pas d'unité, mais en tout cas de pensée complexe qui se faisait, quoi. Et donc, en fait, nos 3 cycles d'apprentissage, le premier, c'était sur c'est quoi un système alimentaire. Le deuxième, c'était un peu sur le fonctionnement de la sécurité sociale, parce que voilà. Et le troisième, c'est quoi la démocratie participative. Et donc, à chaque fois, à la première séance, il y avait un chercheur qui venait, une chercheuse, qui nous donnait une sorte de panorama de la question. La deuxième séance, c'est là qu'on avait 2 personnes qui pensaient pas la même chose, qui s'opposaient et auxquelles nous, on rajoutait nos questionnements. Et la troisième séance, le CLAC, là, ils étaient tout seuls dans leur bulle à construire leur pensée autour de ce qu'ils avaient entendu sur les 2 séances d'avant. Et donc, on fait ça de janvier jusqu'au mois de juin, là. Et puis en juin, on leur dit, voilà... on en est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête, quoi? Et là, unanimement, ils ont tous dit, non, nous, on a envie de continuer ce travail. C'est super intéressant. On voudrait aller plus loin sur ces questions-là. Et là, il y en a 3 qui se sont dit, qui ont été même plus loin que ça, et qui nous ont dit, en fait, nous, on aimerait pouvoir participer à l'animation des réunions. On a envie de préparer les réunions avec vous. On n'a plus envie de les subir comme vous le faites, quoi. Bon, ok, si vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est cool. Ouais. Au point que les 2 dernières, moi, j'ai juste servi à réserver la salle, en fait. Ils avaient tout préparé, le déroulé de l'animation, c'est eux qui l'ont géré, etc. C'est super intéressant. Et en fait, en ce moment, on travaille à faire une sorte de fresque de notre vallée sur quel est notre avenir alimentaire désirable en 2052, en se projetant volontairement sur le très long terme, en se disant de toute façon, le système alimentaire, ça ne se change pas en 2 ans, hein, c'est pas la peine de parler de l'année prochaine. Et à se dire, à partir de 2052, du coup, potentiellement, on peut identifier quels sont les enjeux réels de ce système alimentaire et de voir quels leviers on pourrait mettre en œuvre. Donc là, on vient de finir la fresque, là. Et là, jeudi, on va se voir demain. On va se voir pour travailler justement sur quels sont les gros enjeux de ce système alimentaire-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en changement. Et donc là, la chance qu'on a eue, c'est tout nouveau, ça date de la semaine dernière, mais c'est que la Fondation de France vient de nous accorder un financement pour créer une caisse alimentaire commune. Donc cette caisse alimentaire où là, on va mettre 15 000 euros au moins sur 2 ans. On aimerait que ça dure un peu plus, mais au moins sur 2 ans déjà. Et que c'est le CLAC qui va gérer cet argent-là. Et qu'ils en feront ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que de ça, soit ils s'allouent une allocation alimentaire pour voir ce que ça donne, soit ils allouent cette allocation alimentaire à des gens qui jugent plus en précarité qu'eux, soit ils investissent sur leur système alimentaire pour construire une usine de raviolis, acheter du foncier, installer un paysan. J'en sais rien. En tout cas, c'est à eux de le gérer, quoi. Et c'est là où on va toucher vraiment l'objectif de notre travail, parce qu'en fait, on est suivi depuis 2 ans par des 2 sociologues qui regardent un peu ce qu'on fait. Quoi. C'est des pratiques qu'on n'avait pas du tout au Maquis. On a rencontré un jour une dame qui disait, en fait, faites une recherche-action autour de ce truc-là, ce serait intéressant quand même. Parce que du coup, ça nous permet de documenter de manière impartiale un peu ce qui se passe. Elles font des interviews régulières des participantes et participants, etc. Quoi. Et là, l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, comment est-ce qu'ils vont utiliser cet argent en ayant une connaissance de la chose, quoi. C'est-à-dire que si on avait donné cette somme dès le départ, potentiellement, bah, chacun serait parti avec son idée du truc, quoi. Mais c'est que maintenant qu'il y a une connaissance commune de la question, quelles actions ça va déclencher, quoi. Et comment l'apprentissage va pouvoir éclairer les actions qu'ils vont mettre en place derrière, quoi. Parce que potentiellement, de se dire, dans ce grand projet de sécurité sociale de l'alimentation, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de se regarder toutes et tous en France, c'est-à-dire, bah, ok, moi je mange du Nutella, moi je suis vegan, moi je suis halal, moi je suis bio, moi je suis machin, nan, 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 et de construire ensemble un truc. Parce que si on n'est pas capable de construire ensemble quelque chose, bah, toute forme de politique alimentaire sera vouée à l'échec, parce qu'elle sera le reflet d'une pensée élitiste, en fait, quoi. Donc c'est tout le travail de construction de cette pensée complexe qu'on essaye de mettre en œuvre dans ce petit truc, quoi. Et donc là, donc le travail sur Cadenet, il se poursuit, et vu qu'il fonctionne très bien, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin, et donc on va dans la ville d'à côté. Là, on s'attaque à une ville de 25 000 habitants, donc là, ça va être encore autre chose. Et on va le travailler en lien avec le Secours catholique, qui est super intéressé par la question, sur Pertuis. Et donc sur Pertuis, on va essayer de travailler cette question-là en créant un groupe, ce coup-ci, de plutôt 50 personnes, quoi, parce que la ville est quand même plus grande. Et donc je pense que notre travail sur la période d'apprentissage, elle va changer. On va peut-être insister plus sur la question du système alimentaire, un petit peu moins sur la question de la sécurité sociale. Enfin, on va voir ça. On doit se réunir avec le comité de pilotage la semaine prochaine pour redéfinir cette période d'apprentissage. Mais ce qu'on en retient, c'est que les gens, ils sont restés principalement parce que l'apprentissage qu'ils recevaient était de qualité. C'est vraiment ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on a été pris au sérieux. On nous a vraiment amené des gens qui nous ont enrichis intellectuellement. Et du coup, on l'a fait en groupe comme ça. Et donc, on se dit, ben ça, c'était vraiment un des trucs qui a bien fonctionné, et de prendre le temps, et de ne pas faire ça juste en 3 séances, de prendre 6 mois pour le faire, le temps de digérer l'information, de revenir à la séance d'après avec des questionnements, etc., et de se les partager en groupe et pas simplement tout seul, quoi.
Petit retour en arrière sur juste le contexte qu'il est nécessaire de partager quand on a envie de se poser les questions de participation des citoyens à l'élaboration d'une politique publique. En l'occurrence, là, c'est l'alimentation, mais ça pourrait être la culture, un projet urbain ou autre. Juste redire que le contexte, c'est celui d'une démocratie représentative en crise. Donc, on va pas se refaire un cours de sciences politiques pour savoir pourquoi, comment, mais cette démocratie représentative présente deux symptômes de crise. C'est un, la montée de l'abstention de manière massive, et la montée de l'extrême droite et la polarisation de la société. Pourquoi ça va nous intéresser en participation citoyenne ? C'est parce que la démocratie qu'on qualifiera de participative, en fait, on lui demande de compenser les défaillances de la démocratie dite représentative. Sauf qu'en réalité, on travaille quand même avec exactement les mêmes causes qui produisent les effets qui vous sont présentés là. Donc déjà, ça va vous dire peut-être quelque chose sur comment est-ce qu'on mobilise, les exigences à avoir pour mobiliser les personnes, etc. En réalité, pour ceux ou celles qui auraient constaté ou qui déplorent le fait que les gens ne se mobilisent pas dans les dispositifs de participation, de concertation, etc., c'est probablement que sont à l'œuvre les mêmes choses qui font qu'elles ne se déplacent pas aux urnes ou qu'elles vont vers un vote caricatural, marqué, polarisant. Donc ça, c'était un premier élément de contexte. Et du coup, il y a un enjeu à améliorer notre système démocratique dans sa globalité, dans lequel les dynamiques de participation citoyenne peuvent prendre une place. La proposition qu'on fait, nous, à démocratie ouverte, c'est de penser une démocratie réellement ouverte qui repose sur 3 piliers, la transparence, la participation et la collaboration. Donc en fait, il y a aujourd'hui une articulation à penser entre l'injonction qui est faite à la participation citoyenne de régler les problématiques entre deux élections générées par notre système démocratique de la Ve République qui est basé sur la représentation et le vote majoritaire, qui eux-mêmes sont des éléments qui sont les premiers en termes d'imaginaire auxquels le grand public va se raccrocher pour estimer ou évaluer si un dispositif est démocratique ou pas. C'est pour ça que toutes les choses qu'on va pouvoir imaginer en participation citoyenne, et vous en avez eu des exemples ce matin, vont souvent proposer un décalage par rapport à la manière de décider. Et typiquement, en participation citoyenne, on décide rarement au vote majoritaire simple. À la manière de représenter. On a un intérêt en participation citoyenne à avoir des dispositifs qui embarquent le maximum de profils possibles, mais c'est rare qu'on aille jusqu'à la recherche de représentativité, sauf dans des panels citoyens tirés au sort, etc. Et encore, on vient de discuter de quelle représentativité on va chercher. En tout cas, le gouvernement dit « La participation citoyenne est une pratique démocratique qui consiste à associer les citoyens au processus de décision politique en dehors des grands rendez-vous électoraux. » Bon, là encore, c'est comme l'obligation réglementaire de concerter, on peut faire un peu ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est associé ? Qu'est-ce que c'est à quel moment du processus de décision ? À quelle intensité ? Bref, il y a plein de questions qui vont être dépliées rien qu'avec cette proposition de définition du gouvernement. Pour démocratie ouverte, nous, on vient positionner le curseur de ce qui fait participation citoyenne à partir du moment où il y a, un, délibération, c'est-à-dire que les participants peuvent, dans le cadre d'un dialogue, construire un discours collectif, et nous, on dit passer du « je » au « nous », passer de l'expression d'un intérêt particulier à l'expression d'une parole collective. Et deuxièmement, que cette parole collective, donc, qui demande un processus de construction, elle ait un impact véritable sur la décision publique, que ce soit une décision technique ou une décision politique, ou les deux. Et donc, vous voyez bien que... Alors, il y a des tas de schémas qui existent pour... la fameuse échelle d'Einstein, pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de schémas qui existent pour montrer à quel point on va monter en niveau de qualité démocratique et donc d'implication des citoyens dans l'élaboration d'une politique publique. Le premier niveau, c'est l'information. Et très souvent, par abus de langage ou pour dire à quel point la participation citoyenne, c'est mieux que seulement la com' publique, on a tendance à dévaloriser un petit peu cette étape-là. En fait, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, et je prendrai pour exemple l'atelier sur la fresque Agrialim, qui n'est pas à proprement parler que de l'information, mais qui est aussi de la sensibilisation, qui est aussi de l'apprentissage en commun, et qui, du coup, s'il n'y a pas cette étape-là, je te regarde, les gens ne peuvent pas en fait discuter, et ça a été dit aussi à la Caisse alimentaire commune, si les gens ne partagent pas un corpus de connaissances en commun, s'ils ne partagent pas des mots de vocabulaire derrière lesquels ils mettent les mêmes choses, l'étape de délibération va être particulièrement compliquée, parce qu'en fait on ne parlera pas tout à fait des mêmes choses, on n'en parlera pas tout à fait de la même manière, avec une compréhension des enjeux parfois différentes, etc. Donc la phase d'information, en fait, elle est cruciale. Par contre, elle ne suffit pas à faire participation citoyenne. Elle ne se suffit pas elle-même. Pour que démocratiquement, en fait, on puisse se dire « Oui, ben, on est passé de là, là, les gens ne sont pas seulement informés, ils sont vraiment impliqués, etc. Ils vont sur autre chose. » La consultation est une option. Là, on a un engagement au changement de décision après écoute de la parole habitante qui est de faible intensité. L'association des habitants ou des citoyens peut aussi être de l'ordre de la conception. Donc là, vraiment, il y a quelque chose, mais on sera plutôt du côté du dialogue avec les services techniques. Mais là, il y a un impact direct, étant donné que l'échange se fait directement. On parlera, par exemple, là, d'expertise d'usage hein, dans des dispositifs de concertation urbaine. Les habitants qui vivent un quartier, un espace public, ils expriment leur expertise d'usage de ce lieu et ça vient alimenter directement le dessin de ce lieu. On peut faire de la coproduction, c'est des exemples des budgets participatifs, où bon, là on dit concrètement, en fait, il y a X dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, et on va coproduire ce qu'on va faire de cet argent-là. Et puis il y a vraiment la codécision, qui peut être du référendum, c'est l'image qu'on peut avoir un peu spontanément. Là, sur cet exemple-là, qui est tiré de la Banque des Territoires, il y a convention citoyenne, ça se discute. Je n'ai pas vu de convention citoyenne qui permette véritablement de co-décider une politique publique pour l'instant. Nous, à Démocratie Ouverte, on a accompagné un syndicat mixte de traitement des déchets qui a poussé la co-décision jusqu'à co-décider un plan d'action pour la réduction des déchets impliquant élus, agents et citoyens avec une technique qui s'appelle la gestion par consentement mutuel qui a été donc du coup très poussée. Et en fait, ce plan d'action co-décidé ainsi en gestion par consentement mutuel a été adopté en conseil syndical à la lettre près Donc, c'était plus qu'une formalité de passer en conseil syndical, là où, dans d'autres territoires, la formalité, c'est de faire la concertation. Le message que moi, j'avais envie de vous passer aujourd'hui, il tient à trois niveaux de message. C'est d'abord, la participation de citoyens, c'est une diversité de démarches et d'outils. Vraiment, enfin, moi, tout l'intérêt que je vois à la matinée, là, c'est que vous avez pu prendre connaissance d'un outil puissant de sensibilisation et de passage à l'action avec la fresque agrialine, qui n'est pas tout à fait de la participation citoyenne, mais s'il n'y a pas cette brique-là, en même temps, elle ne va pas émerger non plus, la participation citoyenne. Un lieu, et la question des lieux en ce moment, sur les questions de participation citoyenne, est fondamentale. Nous, on y voit un objet d'innovation démocratique fort, parce qu'aujourd'hui, les lieux du geste citoyen n'existent pas. Ils existent le moment dans les écoles, quand on va voter, avec un isoloir, une urne et tout un circuit. Mais le lieu de l'implication citoyenne, de la citoyenneté active au quotidien, entre deux temps électoraux, n'existe pas. Et donc, pourquoi pas un tiers-lieu autour de l'alimentation. Et avec le CNA, on a un exemple d'instance. C'est une instance avec des gens qui s'y impliquent sur un temps long et qui mènent des travaux et qui donnent des avis. Et ces instances-là, elles existent, pas forcément sur l'alimentation, mais vous connaissez tous des instances locales. Quand j'ai fait le petit tour sur l'interconnaissance, j'ai entendu les conseils de quartier. J'ai pas entendu les conseils de développement, mais il y a les CESER au niveau régional, il y a le CESE au niveau national. Enfin voilà, ces instances-là, elles existent dans beaucoup d'endroits. Et puis, avec la Caisse alimentaire commune, on a un autre outil qui vient vraiment nous questionner très fort, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça se passe en dehors de l'institution. Et en fait, ces espaces-là de participation citoyenne, ils sont hyper intéressants en ce qu'ils génèrent très souvent des réponses à des questions que se pose l'institution et que l'institution n'est pas capable de résoudre. Typiquement, la mobilisation, le temps long, le fait d'être détaché des impératifs politiques et de pouvoir donner à un public le temps de travailler et de maturer une question, là où très souvent, avec le temps de l'institution, on n'est pas tout à fait dans le même cadre de liberté et de, je dirais, de légèreté. À peu près. Donc le deuxième message que je voulais vous parler, c'est qu'effectivement, mobilisation et information, ce n'est pas encore de la mobilisation citoyenne, j'ai mis enfin presque, mais par contre c'est un incontournable pour cette question que je disais de pédagogie, de sensibilisation. Donc c'est vraiment il faut vraiment pas dénaturer cette étape-là ou l'éviter ou aller trop vite en disant ça sert à rien parce que c'est pas vraiment de la participation citoyenne. Non, enfin, si vous la faites pas, il y aura pas le reste qui suivra. Chez Démocratie Ouverte, on considère que être citoyen, c'est un citoyen actif, acteur de son territoire. Ça vient traverser toutes les sphères de notre vie. Que dans toutes ces sphères de vie, en fait, on peut proposer, il peut y avoir des gestes qui nous permettent d'exercer notre citoyenneté. Donc évidemment, il va y avoir le fait de s'informer et se former, le rapport aux médias, enfin là, du coup, on peut faire de la proposition, le fait de s'impliquer dans des outils participatifs, démocratiques à proprement parler, on vient de les balayer, élire et se représenter, choisir de contribuer à la démocratie représentative, pourquoi pas, il y a des citoyens qui passent le pas. Heureusement, on serait quand même bien embêté si personne ne voulait être élu, quand même. Débattre, militer, réfléchir, mais aussi consommer, soutenir et financer ce qu'on choisit de financer. Enfin voilà, vous le connaissez, c'est des choix de vie individuels qui souvent peuvent être déclinés et qui nous paraissaient importants de redire parce qu'on a souvent tendance à considérer le citoyen comme un peu détaché du travailleur, du parent, etc. Et en fait, ils sont tout ça. En même temps. Ça nous permet aussi de, en plus de tout ce que je vous ai dit sur le contexte de défaillance de notre démocratie représentative, de se soulager un peu quand on va aller concevoir des dispositifs de mobilisation qui ne vont pas toujours marcher. C'est qu'en fait, on est, en tant qu'individu, on est certes citoyen, mais on est aussi pris dans tout un tas d'engagements qui sont là avant, qui vont être là après, etc. Et parfois, ça explique tout simplement les difficultés de mobilisation. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là qu'on ne mobilise pas, ils n'ont pas des gestes citoyens par ailleurs, parfois même sur nos sujets, et en particulier sur l'alimentation. Étant donné que probablement sur l'alimentation, un des premiers gestes qui est possible, pas pour tout le monde, mais qui est possible, c'est la manière de consommer.
Les personnes que vous avez entendues ont été enregistrées lors d'une rencontre intitulée « De la sensibilisation à la codécision, quelle implication des habitants et habitantes dans les projets alimentaires qui a eu lieu le 30 novembre près de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Cette journée était organisée par Impact Centre et le syndicat mixte du pays vendômois dans le cadre d'une mission confiée par la région Centre-Val de Loire. Plus de 75 personnes, élus, citoyens, représentants d'associations ou de collectivités étaient présents lors de cette journée. C'était La main à la pâte, l'émission mensuelle du réseau Impact Centre.